Musique pour Planète, changer le monde est à notre portée.
Bon, écoute Jean-Pierre, on est chez toi déjà. Merci de m'accueillir pour ce podcast que beaucoup attendent déjà. Je voulais te remercier. J'ai fini La Petite Princesse hier matin dans le train en venant à Paris. Alors je suis un peu triste parce que ce livre était devenu un peu un ami. Alors il est conséquent, hein, donc j'ai passé du temps pour le lire, mais aussi plus qu'un ami. Je sais pas si le mot est thérapie, c'est peut-être un peu fort, mais il m'a apporté du baume au cœur. Le contexte géopolitique, pour pas parler déjà d'écologie, quand même très compliqué en ce moment. Ça va pas très bien sur notre planète bleue. Et du coup, ça fait du bien, en fait, un livre un peu positif comme ça pour se dire, voilà, il y a de l'espoir, il y a des choses. On est tous sur cette même planète et on va trouver des solutions ensemble et il faut plus de fraternité. Donc, déjà, pour ça, un grand merci. Peut-être que tout le monde ne nous connaît, te connaît pas encore. Est-ce que tu peux te présenter? Je sais que tu as plein de casquettes différentes et un parcours assez, assez varié. Alors, ouais. Qui es-tu, Jean-Pierre Gou?
Alors, la casquette qui nous occupe aujourd'hui, c'est la casquette d'écrivain. Moi, j'ai déjà écrit deux romans qui s'appelaient Siècle Bleu, qui ont été publiés en 2010 et 2012. Et là, La Petite Princesse, c'est une nouvelle saga dont, qui s'appelle Révolution Bleue. Et La Petite Princesse, c'est le premier tome de cette saga. Donc, il y aura deux autres tomes. Donc, quand ils seront publiés, il faut d'abord que je finisse de les écrire. Tu retrouveras, j'espère, ce beau cœur que tu as trouvé là et j'espère aller encore plus loin dans ces deux autres livres. Mais avant, j'ai ma formation initiale. Moi, je suis ingénieur et j'ai été chercheur en mathématiques pendant longtemps et j'ai toujours voulu appliquer les sciences ou l'ingénierie sur gérer la résolution des conflits entre l'humanité et la biosphère. C'est vraiment ce qui m'a occupé toute ma vie. Donc, après avoir fait de la recherche en maths, j'étais entrepreneur. J'ai monté plusieurs boîtes que j'ai dirigé aussi. Et pendant 17 ans, j'ai travaillé dans la transition énergétique et je dirigeais une société qui s'appelait PowerNext et qui gérait tous les marchés de l'énergie, gaz et électricité en Europe. Ça m'a permis de comprendre toute la complexité immense de changer le système énergétique et même de changer le comportement des individus, le comportement des entreprises, le comportement des États. Donc, par ce prisme-là, j'ai compris toute la difficulté et j'ai aussi saisi le manque d'imaginaire qui était là. Et ce manque d'imaginaire était un frein, en fait, au fait que la transition s'accélère. Et c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, j'ai commencé à écrire des romans parce que je ne trouvais pas dans les imaginaires quelque chose qui soit enthousiasmant. Et je trouvais qu'on avait réussi à faire de cette transition écologique qui est quand même une des plus grandes peurs. Moi, c'est une de mes plus grandes peurs. On en a fait le truc le plus pénible, le truc le plus chiant, on va dire le mot. Et alors qu'en fait, avec des normes, avec des chiffres, alors qu'en fait, c'est une épopée incroyable, c'est une chance incroyable et un risque incroyable de pouvoir être dans cette époque. On doit faire muter l'ensemble des activités économiques mondiales, l'ensemble des comportements. Et pour moi, je voulais redonner un souffle d'épopée à cette transition écologique. Et c'est ça qu'est la Révolution bleue, c'est cette grande épopée mondiale de la transition écologique. Et le pari du bouquin en trois tomes, c'est qu'en trois ans, on peut la faire, cette transformation écologique du monde.
Tu parles souvent dans tes livres de synchronicité ou de sérendipité. C'est un ami commun qui nous a présenté l'année dernière. On est resté d'ailleurs bloqués tous les deux dans le couloir pendant une heure et demie, je crois.
Exactement.
Merci Vincent David pour la mise en relation. On s'était vraiment jamais rencontrés physiquement. Mais je me suis rendu compte finalement que, en termes de synchronicité, j'étais pas mal avec toi au centre, puisque je connais très bien Mathieu Baudin en travail de l'Institut des Futurs Souhaitables dans les mêmes locaux. Je me suis rendu compte que j'avais travaillé avec Kim, qui est ton associé sur le projet One Home.
Exactement.
Bien entendu, c'est Alexandre Jubien, avec qui j'ai fondé Musique for Planet, qui m'a offert La Petite Princesse il y a trois semaines. Et puis Siècle Bleu, c'est ma compagne qui me l'avait offert il y a quelques temps maintenant. Synchronicité ou sérendipité, du coup?
Alors, synchronicité, c'est un hasard signifiant. C'est comme ça que Jung l'avait défini. Donc, si tout ça, ça débouche sur un très grand projet ou quelque chose qui change ta vie ou ma vie, ça sera une synchronicité. Sinon, c'est juste le hasard des rencontres, mais c'est déjà beau, le hasard des rencontres. Donc, l'avenir nous dira s'il s'agit d'une synchronicité.
Bon, à ce propos, j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à toute l'équipe de Music for Planet, parce que tout le monde s'est battu pour t'interviewer et avoir ce moment avec toi. Donc, j'ai fait beaucoup de jaloux dans l'équipe. Et c'est moi qui tirais le gros lot.
Bon, on fait un gros coucou à Alex Jubien, que j'aime énormément.
Il y avait un vrai consensus sur le fait que tout le monde a lu le bouquin et tout le monde est fan de la saga d'une manière générale. Le livre, il se lit, je viens de le terminer, il se lit de plusieurs façons. Je me suis fait, moi, emporter par l'utopie et le roman, l'histoire. Mais j'ai vraiment aussi apprécié la base documentaire incroyable, presque une formation. J'ai encore appris beaucoup de choses et j'ai fait non pas l'effort, mais je voudrais encore plus le faire dans une autre relecture, d'aller chercher aussi toutes les notes et d'aller vérifier tous les éléments sur toutes les notes et pourquoi pas ouvrir vers d'autres champs, d'autres lectures. J'ai appris beaucoup. Au-delà du récit, tu as voulu faire de ce bouquin une espèce de hub vers d'autres savoirs.
Oui, alors déjà ça me touche beaucoup venant de toi, parce que ça fait 25 ou 30 ans que tu es dans ces sujets de transition, donc tu as vu, tu as lu ou tu as rencontré énormément de gens dans ce domaine-là, et moi comme toi j'ai la chance d'être tombé sur des livres ou sur des anecdotes que des gens m'ont racontées. Et en fait, ces anecdotes, ces choses-là ou des articles scientifiques que je lis, moi, je m'intéresse à peu près à tous les domaines, quoi. Et parfois, il y a des choses que je rencontre, je me dis, ça, c'est vraiment une information qu'il faudrait partager. Et donc, la grosse difficulté d'écrire ce livre, c'est qu'il y a une histoire à raconter et c'est vraiment l'histoire de l'épopée de la transformation écologique du monde, mais aussi de la métamorphose de l'humanité, on en parlera. Mais il y avait la volonté de mettre à disposition des autres, tous ces petits secrets, ces petites pépites que j'ai collectées. Alors j'en avais mis énormément il y a 10 ans dans Siècle Bleu, j'avais plus de pépites dans mon sac à pépites. mais là, en 10 ans, mon sac à pépites c'était vraiment bien rempli, et donc il y a tout ça. Et par rapport à Siècle Bleu, j'ai voulu mettre les sources de ça, c'est-à-dire soit remercier les personnes qui me les ont données, ces pépites-là, parce que le monde se fait pas tout seul, et donc ce livre est collectif dans le sens où c'est toute une collecte d'informations qui forge un nouveau point de vue, ou de mettre les références des articles ou des livres dans lesquels j'ai trouvé ça. Parce que pour les gens qui voudraient prolonger, que ce soit des éléments de géopolitique, des éléments de biomimétisme, des éléments sur l'astronomie, des éléments sur la biologie, parce que le livre, il est très pluridisciplinaire, de donner des points d'entrée. Et je pense notamment aux étudiants, quoi, aujourd'hui, parce que s'ils lisent ce livre et que ça les enthousiasme, ça peut peut-être leur donner des vocations en lisant d'autres livres. Et pour moi, c'est un pointeur, en fait, ce bouquin. Donc, il a plusieurs fonctions. Donc, c'est... Et le côté encyclopédie, je l'ai relégué dans les notes. Il y a 250 notes de fin d'ouvrage pour pas surcharger l'intrigue, parce que avant tout, c'est un livre dans lequel on apprend, mais c'est surtout un livre qui divertit. Et moi, je suis très proche de la philosophie qu'avait Jules Verne, qui était, et c'était l'accord qu'il avait avec son éditeur Hetzel, d'éduquer et de divertir. Alors, le mot éduquer, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, permettre aux gens d'apprendre des choses, faire un peu la synthèse des informations d'avant-garde de l'époque, mais aussi de savoirs très anciens qui prennent tout leur sens aujourd'hui, qu'il s'agisse de grands savoirs philosophiques ou de grandes sagesses, ou du savoir des peuples premiers. Tout ça, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Et Jules Verne faisait un peu ça aussi pour ouvrir l'avenir, quoi. Et ce livre-là, et ça, c'est le grand avantage de la littérature par rapport à l'écriture d'un essai, c'est que on peut se permettre de proposer des visions. Alors moi, j'essaie qu'elles soient toujours réalistes, mais qui sont osées, quoi, on va dire. Et quand c'est des héros qui osent, c'est pas la même chose que quand l'essayiste ose. Quand les héros, on les aime bien, ben on les suit, en fait, dans leurs idées folles.
On est aujourd'hui sur les sujets d'écologie, au-delà de la bien-pensance de ce qu'il faudrait faire, dans des dilemmes, dans des complexités, et j'ai un peu l'image d'un labyrinthe, et tout le monde cherche son chemin dans ce labyrinthe. Dans ton livre, il y a 2 fils d'Ariane, peut-être d'autres, mais qui m'ont touché, et je voudrais que tu nous en parles. Il y a Syntex, et puis Yves Klein.
Ouais, alors ça a été des fils d'Ariane dans ma vie, et du coup, ça devient des fils d'Ariane dans la vie des personnages, mais... Pour moi, ces deux rencontres majeures dans mon panthéon, je pense qu'ils sont à l'étage le plus élevé. Il y en a d'autres hein, dans mon panthéon et un certain nombre de chercheurs ou de personnalités, parfois très peu connues, parce que c'est souvent des rencontres qui sont très personnelles. Mais eux, ils ont joué un rôle majeur. Et d'ailleurs, le livre, il est sous la double énergie d'Yves Klein et de Syntex dès la couverture, puisque la Révolution bleue est un concept qui a été imaginé par Yves Klein en 1957. J'en redirai un petit peu plus ce que c'est. Et La Petite Princesse, vous voyez l'allusion avec Le Petit Prince, quoi. Donc ce livre, dès la couverture, c'était de rendre hommage, mais c'était aussi de bénéficier de l'énergie de ces deux monstres sacrés. Yves Klein, c'était un peintre niçois qu'on connaît essentiellement pour ses monochromes bleus. Il a peint il a fait des œuvres de toute autre nature aussi, mais il a été connu pour ça. Il a recherché un bleu qui soit éternel. Et il a à la fois trouvé cette teinte qui transforme la matière en immatériel. Si vous prenez un rocher et que vous le peignez avec du bleu Klein, en fait, le rocher perd sa densité. Et quand vous avez une toile qui est en bleu Klein et que vous êtes face à cette toile, moi, quand j'ai été confronté pour la première fois à cette toile en 1990, quand ils ont ouvert le musée d'art contemporain à Nice, je me suis dit, c'est une porte vers un autre monde. Et il y a quelque chose qui est fascinant, on a l'impression qu'on peut le traverser, qu'on peut aller vers l'au-delà. Et il y avait cette quête-là de l'invisible qui était très présente chez Yves Klein. Et il avait un rêve qu'il appelait la Révolution bleue, qui était de peindre le monde de ce bleu-là, de ce pigment bleu. Il avait même écrit à des chefs d'État pour qu'ils mettent ce pigment bleu dans les explosions de bombes atomiques quand ils faisaient des tests, pour accélérer la dissémination de ça. Et je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire par accélérer cette Révolution bleue? Pourquoi disséminer le bleu? Moi, j'étais né à Nice sous ce bleu, et je me disais, ce bleu, il a quelque chose d'incroyable. Et dans le livre, j'essaye de donner quelle est l'origine de la fascination d'Yves Klein pour le bleu. Et le mot révolution, sa vraie signification, c'est la concaténation entre rêve et évolution. Donc c'est le rêve d'évolution de l'humanité, et c'est un rêve qui ne vient pas que de l'humanité, mais qui vient de la Terre. Et donc ce bleu pourrait être la couleur du bleu de la Terre qu'on voit dans le fond de nos rêves, quoi. Et c'est aussi cette couleur-là qui a émerveillé les astronautes, et qui a certainement émerveillé Saint-Exupéry aussi. Et j'essaye dans le livre, à un moment à peu près à la moitié du livre, d'expliquer quelle pourrait être l'origine commune de cet ébleuissement. c'est un mot qui m'a été donné à l'Institut des Futurs Souhaitables et que je trouve magnifique. C'est un mot que j'emploie à la fin. Et j'étais ravi parce qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré Cédric Villani qui avait lu La Révolution bleue, et il m'a dit qu'il avait été ébleui. Et éblouir un très grand mathématicien comme moi, pour moi, ça, voilà. Donc Yves Klein, c'est lui qui a forgé le rêve que j'essaye de poursuivre. Et Saint-Exupéry, moi j'ai eu une histoire très particulière avec Le Petit Prince qui a à un moment fait bifurquer ma vie. À un moment, je ne voyais pas comment je pouvais mettre les mathématiques au service du développement durable, et il m'a permis de faire une bifurcation. Et c'est la première fois où je l'ai lu à 22 ans. Et donc ce livre, pour moi, il est étrange parce que il a été un activateur de synchronicité. J'allais signer dans une banque parce que je trouvais rien d'autre où je pouvais faire des maths, mais vraiment à contre-cœur. Et j'ai lu Le Petit Prince pour la première fois en allant à ce rendez-vous. Et je suis arrivé au pied de la tour de la Société Générale en train de lire le passage sur le businessman. Et je me dis, mais jamais de ma vie, j'irai bosser dans une banque. Je devais signer mon contrat, je ne l'ai pas signé.
T'as fait demi-tour ?
Non, je suis quand même allé au rendez-vous. J'ai expliqué que je ne le signerais pas. Ils m'ont dit pourquoi. Je dis, je ne peux pas vous expliquer. Et quand je suis sorti en fait, de ce rendez-vous, à l'époque, c'était en 1996, on n'avait pas de téléphone portable. J'ai consulté mon répondeur à distance. Et j'avais un message sur mon répondeur d'EDF qui me proposait un stage extraordinaire sur la transition énergétique. Et après, j'ai bossé 20 ans dans ce domaine-là. Et j'ai encore sur mon exemplaire du Petit Prince, le numéro de téléphone d'EDF que j'avais noté sur mon téléphone parce que j'avais pas d'autres, sur mon exemplaire du Petit Prince, parce que j'avais pas d'autres exemples. Et le Petit Prince m'a toujours ramené sur cette chose-là de croire en mes rêves et d'agir pour mes rêves et de pas les lâcher. Il y a toujours des moments où on veut les lâcher, mais j'ai essayé toujours de rester là-dedans. Et puis, après avoir lu Le Petit Prince, j'ai lu toute l'œuvre de Saint-Exupéry. Et les valeurs en fait qu'il promeut, et puis la vision qu'il a de l'humain, de la planète. Et à l'époque, c'était déjà une vision qui était une vision vue d'en haut, parce que c'était une vision d'un aviateur. Donc il y avait une certaine distance vis-à-vis des activités humaines et qui a été, je dirais, presque un précurseur de l'overview effect, qui est cet effet qu'ont ressenti les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace et qu'on fait vivre avec notre ONG One Home qu'on a monté avec Kim. On va dire, Syntex, c'est un précurseur de l'overview effect. Et l'overview effect, c'est juste le fait de regarder à distance ce qui se passe sur notre planète et d'essayer, depuis cette distance, de trouver des solutions qu'on ne voit pas quand on a le nez collé à ça. Et l'œuvre de Syntex, pour moi, il y a tellement de phrases dans son œuvre qui sont des clés, comme si c'était des choses qui avaient été codées dedans. En fait, le roman, c'est une sorte d'énigme que les héros doivent résoudre, où les éléments du puzzle sont cachés dans Le Petit Prince et qui, assemblés, donnent accès à un grand secret. Et ce secret permet d'activer la suite de l'humanité. Et c'est cette suite de l'humanité qui permet d'accélérer la transition écologique.
Dans des exemples de phrases de Syntex, j'ai noté « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche ». Et il faut les créer et les solutions suivent. Je crois que ça va être notre futur credo pour Music for Planet. On va l'écrire en gros sur le site internet. Sur ces forces en marche et la prise de hauteur aussi que tu évoquais, j'ai été très sensible aussi au fait que tu ne peux pas parler d'écologie sans comprendre un peu les forces en présence, que Exactement. Ce soit les super-États, les super-powers. Là, il y a une dichotomie entre US et Chine, par exemple. Tu ne peux pas comprendre le sujet en étant aussi autocritique sur ce que c'est que l'écologie aujourd'hui dans le monde, qui est parfois portée par des dogmatismes, des obédiences, et que parfois, plutôt que de tous aller dans le même sens, on se tire un petit peu dans les pattes. C'est quoi ce côté un peu recul critique que tu peux avoir sur ces sujets?
Ouais. Alors, cette phrase-là que tu as citée, donc c'est une phrase qui est extraite de Vol de nuit, pour la petite histoire. Il a écrit Vol de nuit à Nice. Moi, je suis niçois. Donc à Nice, il y avait l'énergie de Vol de nuit et l'énergie de Yves Klein qui baignait dans cette ville. Et sans doute que ça a dû baigner mes rêves. Et Antoine de Saint-Exupéry habitait dans une villa qui était juste à côté de là où je vivais. Donc il y avait cette énergie-là. Et moi, j'adore cette phrase-là parce qu'elle est extrêmement tactique, cette phrase. Elle te dit que faut pas chercher des solutions, faut chercher les forces qui induisent les solutions. Et aujourd'hui, on parle de l'écologie des solutions. C'est un terme que tu as entendu. Donc on est là, les solutions. Mais on n'a pas travaillé sur les forces en marche qui fait que ces solutions vont être faciles à déployer. Et trouver les forces en marche, c'est se reconnecter, on va dire, aux énergies soit de la société, soit plus profonde de la biosphère, soit plus profonde du cosmos, qui sont en train d'agir et dans lesquelles, on s'inscrit là-dedans, on est dans un flot autoportant. Et on n'a jamais fait ce travail sur l'écologie, d'essayer de redéfinir en fait la transition écologique dans quelque chose qui coule de source. Et on est sans cesse à devoir auto-justifier ça contre un système qui, lui, n'a pas été monté avec les valeurs écologiques. Et du coup, on s'épuise à déployer les solutions. Et cette phrase, en fait, au début du roman, enfin, on peut le dire, il y a un astronaute qui l'écrit sur le régolithe lunaire et les gens essayent de décrypter pourquoi il y a cette phrase. Ils essayent de retrouver ces forces en marche. Et c'est une des quêtes du héros de trouver ces forces en marche. Et les forces en marche, en fait, ça veut dire de regarder le monde comme étant un monde dynamique. Et ça, c'est un des énormes écueils de la vision occidentale, c'est de regarder le monde comme quelque chose de figé qu'on essaye de changer, c'est-à-dire une machine qu'on répare. En fait, le monde, il est en constante évolution et il y a eu un grand débat dans l'Antiquité entre Héraclite et Parménide, un qui considérait comme un monde figé et l'autre qui considérait le monde comme étant, je dirais, une rivière qui se régénérait toujours et qui était en constant changement. Et on a choisi la vision de Parménide dans le monde occidental. Mais les Chinois, eux, avaient une vision, par exemple, du yin et du yang, où il y a toujours des forces en action, et ces forces en action, elles sont en action continuelle. Les taoïstes ont développé un concept qui est très important dans le bouquin qui s'appelle le Wu Wei. Et le Wu Wei, c'est l'art d'agir sans forcer. Et ce n'est pas l'art du non-agir, c'est l'art d'agir sans forcer, en ayant une lecture précise des forces en présence. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les forces en présence, qu'elles soient sociétales et au niveau des structures individuelles ou des structures collectives. Tu parlais des États, évidemment, la Chine dans ce livre est le principal opposant à la Révolution bleue parce qu'ils avaient un agenda planétaire qui passe par l'écologie et le fait qu'il y ait ce mouvement mondial qui, citoyen, on va dire très bottom-up, qui émerge, ça vient complètement chambouler la stratégie des Chinois et ils essayent de faire taire la Révolution bleue. Et pour revenir à ce qu'on disait, la lecture de ces forces en marche, tu peux pas la trouver toujours dans la société. Il faut trouver des choses qui sont au-delà de ça, et donc de regarder les forces d'évolution de Gaïa et les forces d'évolution de l'humanité. Et l'humanité n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a été, on a été des Australopithèques, on a été des Homo habilis, des Homo erectus, on a été différentes formes de sapiens. Et le gros travail que moi j'ai fait dans ce bouquin, c'est d'essayer de reformuler la transition écologique et le passage de ses limites planétaires comme un moment d'activation de la prochaine phase d'évolution d'Homo sapiens vers un collectif humain planétaire que j'appelle Homo bioceris, c'est-à-dire un passage d'une humanité où on se considère comme 8 milliards d'individus séparés vers une humanité où il y a 8 milliards d'individus unis qui forment l'humanité pour la première fois, et c'est la mission des héros de former l'humanité, et que cette humanité ne soit pas la détentrice de la biosphère, mais un organe de la biosphère au service de la biosphère. Et quand on reformule, on va dire, le projet humain comme ça, il y a une force qui est indestructible. Et si, on va dire, l'économie capitaliste extractive doit se justifier par rapport à ça, elle ne peut pas. Et donc, la question, c'était de trouver un élément sur lequel c'est à l'ancien monde de devoir justifier son existence par rapport à un truc qui est un fleuve inarrêtable, et le but, c'était de trouver un concept simple qui permette à tous les concepts extraordinaires que l'écologie a inventés depuis 50 ans, que ce soit l'économie régénérative, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, en fait, toutes ces choses qui vont dans le sens, mais quand tu le justifies par rapport au dogme existant, en fait, tu n'y arrives pas parce que ça coûte plus cher, etc. Mais par contre, si tu considères une analogie biologique au niveau de la planète et que tu considères que le système économique, c'est le métabolisme de l'humanité, en fait, tout ça, ça coule de source. Et donc, la force en marche qui recherche dans ce bouquin, c'est la force de l'évolution, et c'est une force qui est là depuis le Big Bang et qui fait que des structures toujours plus complexes émergent et on a à ce moment l'émergence. Quand on reformule en fait la transition écologique que j'appelle révolution bleue, la révolution bleue, c'est pas la transformation technique et économique du monde, c'est la métamorphose d'Homo sapiens vers Homo bioceris. Ça devient une épopée.
Voilà. Alors cet Homo bioceris, il a cette conscience de Gaïa. Et puis, il y a des éléments qui lient les êtres les uns aux autres. Et dans ces éléments-là, la musique et cœur.
Voilà.
Et quand on s'est rencontrés l'année dernière et que tu m'as parlé de La Petite Princesse et que je t'ai parlé de Music for Planet, que tu connaissais un petit peu, c'est pour ça qu'on est resté une heure et demie à se parler, parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte que synchronicité, la musique dans nos deux projets était vraiment très importante. Nombreux m'ont dit « tu vas voir, la deuxième partie est très musique ». Tout le bouquin est musique, en fait.
Ouais.
J'ai commencé à noter toutes les chansons que tu proposais en me disant ouais, « on va faire une playlist incroyable ». Je me suis rendu compte à la fin que tu avais fait la playlist.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment important pour les auditeurs et les auditrices. Vous allez sur révolutionbleu.fr, c'est le site du livre, et il y a les playlists qui ont déjà été mises pour Spotify, YouTube et Deezer. Et vous pouvez suivre au fur et à mesure les musiques qui sont écoutées par les héros, parce que c'est une aventure musicale, et ça vous donnera une autre dimension, on va dire, à la lecture.
Donc écoutez les sons au fur et à mesure de la lecture. Et puis, il y a un champ lexical qui est très très présent. On parle d'harmonie, qui est très cher à de nombreux biologistes, dont Gilles Boeuf. J'ai adoré la métaphore sur l'orchestre symphonique versus l'orchestre de jazz. Alors, j'ai le patron de Pixelis, chez qui je travaille régulièrement, qui a eu aussi cette image en disant « mais le collectif doit fonctionner à l'unisson comme un orchestre ». Et puis, il y a eu ces questions, ces débats sur est-ce qu'on est un orchestre symphonique ou un orchestre de jazz.
Donc, ah, vous avez eu OK, super.
C'est assez rigolo aussi.
Donc,
tu vas nous parler aussi de cette métaphore. Mais oui, le livre est musique. Ça monte crescendo pour continuer sur le champ sémantique.
Ouais.
Mais le livre est musique. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais. Alors, moi, j'ai toujours été passionné de musique. Alors, j'ai jamais été un grand musicien. J'ai fait du piano jusqu'à l'âge de 18 ans, mais de manière très médiocre. Après, en seconde, j'ai fait du synthé. Puis, on a créé un groupe de musique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'électro. Et depuis l'âge de 15 ans ou 16 ans, je vais dans des soirées électro. Et ce qui m'intéresse dans ces soirées électro, et c'est très présent dans le livre, c'est le fait que quand j'écoute ce genre de musique, je rêve, quoi. Et d'ailleurs, ça s'appelait les raves, ces soirées-là. Et moi, l'endroit où j'aime le mieux me ressourcer, il y en a, c'est la forêt, mais moi, c'est dans des soirées électro. Et je me mets dans un coin, je vois les gens danser, je pars en écoutant de la musique, sans aucune substance, hein, mais moi, je vous mettez quatre accords et des rythmes de musique électro, mon esprit part. J'écris toujours en musique, c'est comme ça que j'arrive à me concentrer. Et donc, la musique a toujours eu pour moi un énorme activateur de rêves. Et aussi, je voyais les foules à l'unisson. C'est-à-dire les gens, au bout d'un moment, quand ils sont sur un même rythme, je les voyais bouger comme un seul corps. Et je me suis dit, et c'est prouvé en biologie, que pour que, on va dire, vous ayez des parties qui travaillent ensemble de manière régulière, il faut qu'il y ait un tempo. Le tempo qu'on a, nous, c'est le cœur qui fait que vous avez vos 30 000 milliards de cellules qui travaillent en tempo. Il n'y en a pas qui disent « Oh là, je vais me reposer, je vais y aller après ». Non, il y a cette espèce de tempo joyeux quoi, qui fait que tout le monde est à l'unisson et qui fait que toutes vos cellules travaillent ensemble, certainement avec joie. Alors, ce rapport entre le tempo du cœur et le travail des cellules, il y aurait tout un travail à faire là-dessus, mais le cœur lui-même est un mystère et j'ai fait toute une série de podcasts sur le podcast Métamorphose, je fais une pub pour un autre podcast, mais sur le cœur. Le cœur est vraiment un mystère et l'origine du tempo du cœur est un mystère parce que la notion de battement de cœur, c'est un flash de cellules qui décident ensemble d'appuyer au même moment sur et de faire une pulsation électrique là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à synthétiser en laboratoire. Donc, c'est quelque chose de vraiment très complexe. Et dans le bouquin, comme l'idée, c'est d'aller, de représenter, en fait, la transformation écologique du monde comme, je dirais, des humains qui s'agrègent pour former un tout, la révolution bleue, c'est le début de cette agrégation. Et si on prend l'analogie de la métamorphose, si vous prenez une chenille qui se transforme en papillon, à un moment, elle forme une chrysalide. Et dans la chrysalide, il y a des cellules qu'on appelle des cellules imaginales qui sont les premières à manifester, on va dire, les parts d'ADN du papillon qui était déjà dans la chenille et qui commencent à devenir papillon. C'est des rêveuses, en fait, ces cellules imaginales. Et petit à petit, toutes les cellules commencent à shifter et puis la créature qui était chenille devient papillon. Et le pari de la révolution bleue, c'est que chacun en nous, chaque homo sapiens, on a une part en nous qui veut la réussir, cette révolution écologique. On ne veut pas mourir collectivement, l'humanité, on veut rester dans l'aventure de la vie. Et donc, au départ, ces cellules imaginales, elles sont vues un peu comme des cellules étrangères par le reste, donc elles sont combattues. Mais la révolution bleue part du principe que c'est une métamorphose, et donc que toutes les autres cellules qui s'opposent même à elles viendront les rejoindre. Donc, dans le vocabulaire, il y a toujours l'idée que, au sein des cellules de la révolution bleue, il faut qu'il y ait de l'harmonie intérieure. Et aujourd'hui, dans les mouvements écolos, on voit beaucoup de gens de jalousie ou de se dire « Ouais, lui, il est trop radical, lui, il n'est pas assez radical. » Et il y a 50 couleurs de 50 nuances de bleu ou de vert et on est toujours à s'opposer. Il faudrait accepter qu'à partir du moment où on travaille tous dans la même direction, il n'y ait pas de problème, quoi. Et donc, la révolution bleue, c'est déjà de créer une harmonie interne et d'avoir une posture vis-à-vis de l'extérieur où on ne considère pas ceux qui ne sont pas encore écolos, on va dire, comme des ennemis, mais comme étant les prochains alliés. Et ça change tout, cette espèce de politique ou posture de la main tendue, parce que ça permet au mouvement de croître. Et le héros n'a qu'une ambition, c'est qu'il y ait 8 milliards de révolutionnaires bleus et qu'on devienne un papillon abouti. Et cette forme aboutie, c'est cet homo biospheris, qui est un gigantesque humain de 287 millions de tonnes, composé de 8 milliards d'individus, c'est-à-dire un grand humain sur une petite planète. Et ce grand humain sur une petite planète, sa forme aboutie, apaisée, c'est le Petit Prince. Et c'est un secret qui a été codé depuis 80 ans dans la couverture du Petit Prince. Et à la fin du livre, vous avez une lettre de Saint-Exupéry qui parle exactement de ça. C'est une lettre qui date de quelques années avant sa mort. Et Saint-Exupéry avait eu l'intuition que l'humanité était en train de prendre conscience d'elle-même. Et c'est ce moment-là que je décris dans La Révolution bleue. Et petite, juste parenthèse, parce que c'est peut-être l'occasion de le dire, quand j'ai écrit La Petite Princesse, C'était un clin d'œil au Petit Prince, parce que l'héroïne principale de ce livre, c'est une petite fille qui se retrouve, malgré elle, au cœur de cette Révolution bleue. Et elle se rend compte que son cœur, ça va être l'activateur de la Révolution bleue, puisque la manière pour que des partis forment un tout, il faut plusieurs choses. Il faut des manières de se relier les uns et les autres pour former un tout. Il faut de la musique et il faut beaucoup d'amour, c'est-à-dire de tout donner au collectif. Parce que le jour où vous faites le pari de devenir multicellulaire, c'est ce corps-là qui va vous nourrir, qui va vous défendre, etc. Donc il faut tout donner. Et ce don infini, c'est l'amour universel, c'est l'agapé, et c'est ça qui est important. Et j'avais appelé ça la petite princesse pour faire un clin d'œil au Petit Prince. Quand j'ai fini la première version de ce livre, il y a un peu plus de 2 ans, il y avait pour la première fois la correspondance entre Saint-Exupéry et sa femme qui a été publiée, parce qu'il y avait des problèmes de droit, elle n'avait pas été publiée avant. Et dans cette correspondance, Saint-Exupéry demandait des nouvelles de la publication du Petit Prince à sa femme. Lui, il était déjà parti à la guerre. Sa femme lui dit « Bon, le Petit Prince a du succès, mais pourquoi est-ce que tu as dédié le Petit Prince à Léon Woerth, qui était l'ami de Saint-Exupéry, qui était dans des camps de concentration ?» Et il lui répond dans une lettre quelques mois avant sa mort que il lui écrira une suite du Petit Prince et qu'il lui la dédiera. Et dans une autre lettre, elle lui dit « Tu l'appelleras la Petite Princesse ». Donc l'idée de la Petite Princesse a été déjà présente chez Saint-Exupéry. Et quand j'ai appris ça, j'ai changé le scénario pour que la petite fille cherche aussi ce manuscrit de la Petite Princesse qui existe peut-être. Je le cherche moi-même, ce manuscrit. Et s'il n'existe pas, il existe au moins dans le cloud, c'est-à-dire dans le monde des idées. Donc il est soit dans le monde matériel, soit dans le monde immatériel. Et dans ce manuscrit, la petite fille trouvera le secret d'activation de cet homo bioceris. Mais la musique est extrêmement importante. Donc je dirais en termes de musique d'ambiance, donc parfois vous avez du jazz, parfois vous avez des musiques de films, parfois vous avez de la musique classique, parfois vous avez de l'électro, ça dépend un peu de la, je dirais, du rythme des différentes scènes. Donc ça c'est la première, on va dire, dimension musicale du livre. Mais après, pour reprendre ta question sur l'analogie de l'orchestre et du bœuf, on va dire, en jazz, la question c'est de se dire, voilà, on va agglomérer dans cette Révolution bleue des gens avec des profils extrêmement différents, et si on veut que ça soit harmonieux, en gros, il faut faire la même chose que ce que les gens ont fait quand on a inventé l'orchestre, c'est-à-dire comment on joue une mélodie dans laquelle on peut à la fois mettre des violons, un piano, un triangle, des cymbales. Et donc, il y a des règles d'orchestration pour que tout ça travaille en forme. Et c'est des règles d'harmonie, quoi. Et ces règles d'harmonie, elles étaient, on va dire, assez figées et c'est très écrit à l'avance dans la symphonie. Alors que dans le big band en jazz, vous avez des gens qui arrivent sur scène, vont prendre la mélodie du moment et vont rentrer dedans. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus organique. Et la Révolution bleue, c'est un mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des actions qui sont planifiées, un peu comme, on va dire, des solos qu'on pourrait avoir ou des parties d'un orchestre symphonique, et des parties extrêmement improvisées, parce qu'ils savent que tout ne peut pas être écrit, parce qu'ils ne peuvent pas prédire ce que les autres vont faire. Donc ils sont entre les deux, c'est-à-dire des parties travaillées à l'avance et qu'ils exécutent au bon moment. Donc il y a toute une question du kairos, de trouver quel est le bon moment pour lancer une action. Et puis une part d'improvisation où il faudra faire des choses là-dessus et faire appel, mais avec une bonne lecture des énergies en présence pour se retrouver dans une situation qui est favorable au développement de la Révolution bleue. Voilà un peu les analogies musicales.
Tu m'as aussi appris que Yves Klein avait fait un concert.
Ouais, alors Yves Klein, donc qu'on connaît parce qu'il avait fait ses peintures monochromes avec une seule couleur, il a aussi conçu une symphonie monotone qui est d'ailleurs utilisée dans le roman dans le livre, et justement c'est un moment où ils sont obligés d'improviser, c'est-à-dire il se passe quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. La manière de répondre, c'est de jouer la symphonie monotone d'Yves Klein, et c'est une symphonie qui a un ton bleu. Regardez surtout sur YouTube, parce que sur les plateformes, il n'y a pas d'enregistrement sur Spotify et sur Deezer, mais sur YouTube, il y a vraiment un enregistrement de l'époque, du début des années 60, et c'est une symphonie qui dure 17 minutes, donc il y a 17 minutes de son bleu, c'est un ré majeur, c'est un accord en ré majeur, et puis 17 minutes de silence, ça s'appelait symphonie monotone silence. Et quand je donne des conférences maintenant sur la Révolution bleue, je commence toujours par jouer cette symphonie, et Elle met les gens dans une joie profonde et un sentiment de sérénité incroyable. Et à un moment dans l'intrigue où, on va dire, les choses leur échappent, ça ramène tout le monde à l'unisson et il y a quelque chose de magique qui se passe avec ça. Donc, effectivement, cette symphonie monotone est là. Et puis, quelque chose qu'on peut mentionner dans le livre, parce que ça a pris une dimension autre depuis quelques mois, c'est que à un moment, le héros, dans sa, on va dire, sa bibliothèque secrète, bon, il y a beaucoup de partitions de musique, de disques, et il y a un disque, moi, qui m'avait beaucoup marqué, qui était « We are the world ». Et « We are the world », quand j'étais enfant, d'avoir vu tous ces monstres sacrés de la musique, au départ black, mais après plus large, venir au secours de l'Afrique, moi, j'avais été fasciné par cette musique, qui était certainement une des musiques les plus achetées, plus vendues au monde. Et ça a été un succès planétaire. Et donc, il a « We are the world » dans son… Et la fin est inspirée de « We are the world », j'en dis pas plus. Mais ce qui est marrant, c'est que Netflix, récemment, a sorti un documentaire sur le « making of » de « We are the world », sur comment les gens ont réussi à réunir ces artistes pour qu'ils accouchent de « We are the world ». Et moi, vous verrez, sur la fin, c'est exactement la même chose, sauf que moi, je ne connaissais pas le making of de We Are The World, puisqu'on n'en a eu connaissance que maintenant. Et là, il y avait une forme d'anticipation. Je pense que dans mon cas, ça va même plus loin, la façon dont ces artistes ont conçu une musique planétaire. Et une discussion qu'on avait eue d'ailleurs ensemble quand on s'était rencontrés il y a un an, je disais, on a besoin de musique pour accompagner l'écologie, mais on a besoin d'hymnes. Et c'est pas la même chose, une musique et un hymne. C'est pareil qu'une histoire et un mythe, quoi. Je veux dire, un hymne, c'est une musique mythique. Et quelles sont les conditions qu'il faut créer pour que des artistes créent un hymne? Quelles informations on doit leur emmener? Qu'est-ce qu'ils doivent vivre entre eux ou seul, hein, un artiste, Rouget de Lille, il a écrit la Marseillaise, il était seul, il y a des hymnes qui ont été écrits par des personnes seules, mais si on veut faire écrire ça par des collectifs, quelles sont les conditions à mettre en place pour qu'ils accouchent d'un hymne? Et ça, en gros, c'est de permettre la magie. C'est ce qu'il y a eu dans We Are The World, et c'est ce qu'il y a aussi dans ce livre-là, quand il conçoit cette musique. Mais en tout cas, voilà, quand on s'était parlé, tout de suite, tu m'as dit qu'il faudrait qu'on fasse un podcast. Je t'avais dit, attends, le livre, il n'est pas encore fini. Il faudra attendre un certain nombre de mois. Mais je suis ravi qu'on ait cette discussion parce que ce que vous faites avec Music for the Planet, ça va exactement dans le sens de ce qui est raconté dans ce livre. C'est-à-dire que alors, la musique ne peut pas être la seule composante hein, de la transformation écologique parce qu'il y a plein d'autres composantes. Et c'est ça la grande force du roman, c'est que vous pouvez appeler toutes ces composantes. Et si j'avais fait un essai où je parle d'astrophysique, de musique, de psychédélique, de conscience, de rêve, on n'y aurait rien compris. Alors que dans un roman, bon, il faut quand même arriver à intégrer tout ça dans une belle histoire où vous pouvez convoquer le monde. Et en fait, ce roman, c'est un micro-univers, quoi, avec en résumé toutes les forces en présence qu'on a aujourd'hui pour essayer de voir comment une idée comme celle-là pourrait se déployer et amener à une transition écologique du monde qui réussit.
On arrive à la fin de notre interview. La question qui me brûle les lèvres, la suite, c'est pour quand?
Alors, pour moi, l'urgence, c'est déjà que le livre, il fonctionne.
Ouais.
Donc là, je passe beaucoup de temps à en tourner dans toute la France pour que le livre fonctionne, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile qu'un livre émerge. Pour moi, la vraie intention, c'est que la Révolution bleue se fasse et qu'il y ait suffisamment de ventes du premier tome pour qu'il puisse être traduit en anglais, parce que si ce livre il reste que français, la Révolution bleue pourra jamais se faire. Donc pour moi, je mets toute mon énergie là-dessus. Donc pour l'instant, là, j'ai pas le temps de continuer l'écriture du tome 2 ou du tome 3, mais l'idée, c'est de sortir ça début 2025, donc un an après le premier tome, c'est ce qui se fait là-dessus, parce que sinon, vous avez des tomes qui arrivent en collision. Puis, le deuxième tome, il n'aura pas la même énergie, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes héros, hein. Comme je vous ai dit, c'est en 3 ans, on réussit la Révolution bleue, mais il va y avoir des déboires dans le tome 2 qu'ils n'avaient pas anticipé dans le tome 1, puis des nouvelles choses incroyables qui vont leur arriver aussi. Moi, je ne souhaite pas que les gens parlent des deux tomes au même moment, c'est des dimensions, en fait, c'est des étapes différentes dans les choses, donc c'est bien de le marquer par des années. J'essaierai peut-être de faire le tome 3 avant la fin de l'année 2025, parce que si la saga elle est bien lancée, j'aurais peut-être pas à faire une autre grosse tournée pour le tome 2. Voilà. Et dans le tome 2, il y a une grosse partie qui est la transition écologique en France. Et je fais une quinzaine de villes. Et c'est aussi, pour moi, l'occasion de rencontrer tous les acteurs de la transition dans les différentes villes que je visite pour prendre le pouls, en fait, de la France et que ça soit aussi une espèce d'activation de la Révolution bleue en France. Donc, j'ai l'impression d'être dans le roman quand je fais la tournée. Voilà. Donc, je pense début d'année prochaine, le roman sera là.
Et peut-être que Music for Planet qui cherche aussi cette dimension internationale et pas une approche juste franco-française, on écrira ensemble ce futur hymne avec d'autres et plein d'artistes. Ça serait peut-être notre but ultime. Dernière question, on termine régulièrement nos podcasts avec un son. Ça serait qui ton... j'ai une très très bonne idée, mais tu vas peut-être me dire quelqu'un d'autre, mais ça serait qui ton artiste Music for Planet et on devrait conclure ce podcast avec quel son ?
Il y a une musique qui est d'ailleurs au cœur du roman, hein, et je l'explique même dans les remerciements. En fait, c'est la musique par laquelle j'ai trouvé la vibe du roman. En fait, c'est une musique de Laurent Garnier qui s'appelle « Reviens la nuit ». En fait, c'est un morceau qui dure 14 minutes. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité de le mettre en entier, mais il faut vraiment l'écouter en entier, ce morceau. C'est un morceau qui démarre par des battements de cœur.
On mettra les 14 minutes.
Voilà. C'est un morceau qui démarre par des battements de cœur, et pour moi, on dirait les battements de cœur de la Terre. Il y a une espèce de vieille voix qui donne des vérités qui pourraient être des sons, des choses qui sortiraient de la Terre. Il y a une voix caverneuse, et vous avez petit à petit tous les instruments qui rentrent les uns avec les autres, et le morceau, à partir de 6-7 minutes, il devient complètement fou et c'est un crescendo jusqu'à la fin. Et ce morceau, c'est un cycle du héros, quoi. Et moi, je l'ai entendu pour la première fois quand les boîtes de nuit ont réouvert. La première soirée où je suis allé, c'était aux Nuits Sonores à Lyon. Laurent Garnier n'avait pas mixé depuis 18 mois. Et donc, il avait composé énormément de musique. Et il a fini son set par ce morceau-là. Je n'ai jamais vu une salle en électro, en 30 ans d'électro, aussi à l'unisson, et on était éblouis, quoi. Et d'ailleurs, toutes les lumières étaient bleues. En écoutant ce morceau, et j'avais que l'enregistrement que j'avais pris avec mon iPhone, j'ai écouté ce mauvais son, parce qu'il a mis plus d'un an à le sortir officiellement, mais ce morceau a vraiment été pour moi le morceau de la Révolution bleue. Vous pouvez trouver d'ailleurs le clip, etc., là, sur le site révolutionbleue.fr. Et si on pouvait finir par un morceau, c'est ça. Et puis c'est un morceau qui appelle pour moi à l'engagement et à la fête, parce que la Révolution bleue doit avant tout être une fête.
Bon, Jean-Pierre, au nom de toute l'équipe, un très 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 grand merci. On vous laisse avec « Reviens la nuit » de Laurent Garnier. «